Chapitre 24. Libby, Miller et Dido fouillent la maison de fond en comble pour trouver l'entrée utilisée par l'inconnu à la chaussette. Une grande porte vitrée donne sur l'escalier de pierre qui mène au jardin, mais elle ne s'ouvre que de l'intérieur et le verrou est fermé, constate-t-il rapidement. De la glycine a poussé sur la façade et la porte, ce qui confirme qu'elle n'a pas été ouverte depuis plusieurs mois. Ils essaient les fenêtres, mais elles sont toutes fermées et poussiéreuses. Ils cherchent d'autres issues dérobées sans succès. Ils testent toutes les clés du jeu de Libby pour ouvrir la porte vitrée, trouvent la bonne, mais la porte ne bouge toujours pas. Miller s'approche des carreaux sales.
« C'est fermé de l'extérieur. Vous avez une petite clé dans votre trousseau ?»
Libby lui indique la plus petite qu'elle est.
« Est-ce que ça vous dérange si j'enlève une vitre ?»
demande Miller à Libby.
« Avec quoi ?»
Il lui montre son coude. Elle grimace.
« S'il le faut. »
Il utilise les lambeaux d'un rideau à fleurs pour amortir le coup. Le verre se fissure en deux morceaux que Miller retire. Il passe sa main à travers la fenêtre, insère la clé dans le verrou et actionne la poignée. La porte s'ouvre en brisant les branches de glycine.
« C'est ici qu'ils faisaient pousser leurs herbes, »
annonce Miller en s'avançant dans le jardin.
« Celles qui ont tué les parents de Libby ?»« Oui, c'était de la belladone, aussi connue sous le nom de cerise du diable. La police en a trouvé tout un buisson. »
Ils se rendent jusqu'à l'imposante acacia qui plonge l'extrémité du jardin dans l'ombre et la fraîcheur. Un banc arrondi qui suit la frondaison de l'arbre fait face à la maison. Malgré les records de chaleur que bat cet été londonien, l'assise est humide et le bois moisi. Libby effleure la coudoir. Elle s'imagine Martina Lemb, assise ici un matin ensoleillé, une tasse de thé posée sur la coudoir, écoutant chanter les oiseaux au-dessus de sa tête. Elle la voit, une main caressant son ventre, un sourire aux lèvres, attentive au mouvement du bébé qui grandit en elle. Puis elle la voit un an plus tard, boire du poison après son dîner, avant de s'allonger sur le sol de la cuisine, abandonnant sa fille à l'étage. Libby retire vivement sa main et se retourne vers la maison. D'ici, elle voit les quatre grandes fenêtres du salon, quatre ouvertures plus petites à l'étage, deux par chambre, et un œil de bœuf au centre qui donne sur le palier. Au dernier étage, il y a les quatre lucarnes, une pour chaque chambre du grenier, et la petite fenêtre ronde de la salle de bain. Encore au-dessus, le toit plat, trois cheminées, et le ciel bleu.
« Regardez !» s'écrie Dido, qui s'est mis sur la pointe des pieds et qui leur désigne quelque chose à hauteur du toit. « C'est une échelle, non ? Ou un escalier de secours ? Où ? Là, derrière la cheminée rouge, regarde !»
Libby distingue le scintillement de barreaux en métal qui descendent jusqu'à une saillie, puis jusqu'au rebord de la corniche. Ensuite, une gouttière file jusqu'à un petit promontoire en briques. Il faut alors sauter sur le mur d'enceinte, puis sur une sorte de bloc en ciment, et on arrive dans le jardin. Elle fait volte-face. Au fond du terrain se dresse un vieux mur de briques recouvert de feuillage touffu qu'elle écarte, découvrant au sol un chemin entre les mauvaises herbes. La végétation est tissée de toiles d'araignée qui s'accrochent à ses vêtements et à ses cheveux, mais elle continue. Quelque chose la stimule. Elle sent qu'elle est sur la bonne piste et ne peut plus s'arrêter. Puis enfin, un portail délabré en bois vert foncé apparaît. Il tombe de ses gonds et donne sur le jardin abandonné de la maison voisine. Miller et Dido l'ont suivi et essayent de voir par-dessus son épaule. Elle pousse le portail de toutes ses forces et s'avance dans le jardin. Il est en friche, envahi de broussailles. Au milieu se trouve un cadran solaire bancal et un sentier de gravier. Il n'y a aucun meuble de jardin, pas de jouets. Mais sur le côté de la bâtisse, elle découvre un chemin qui semble mener directement à la rue.
« C'est par là qu'il entre !» annonce Libby en posant sa main sur le cadenas qui a été ouvert à la cisaille. « Celui qui dort dans la maison. Il passe par ce portail, traverse le jardin, « monte sur le bloc de béton là-bas, »
poursuit-elle en les ramenant dans le jardin.
Il saute sur le mur, puis sur le promontoire, grimpe le long de la gouttière jusqu'à la corniche, et ensuite il peut attraper les barreaux de l'échelle. Il suffit qu'on comprenne où elle mène. »
Elle jette un regard à Miller, qui la dévisage.
« Je ne suis pas très sportif. »
Elle se tourne vers Dido qui fait la moue.
Ah oh non, pas moi.
Il retourne dans la maison et monte au grenier. Cette fois, il remarque une petite trappe en bois au milieu du palier. Miller fait la courte échelle à Libby, qui pousse de toutes ses forces.
Alors, qu'est-ce que ça donne?
On dirait une sorte de tunnel plein de poussière, et au bout il y a une autre trappe. Soulevez-moi plus haut.
Miller grogne et parvient à la remonter suffisamment pour qu'elle puisse se hisser dans le tunnel en s'agrippant à une latte. Il fait extrêmement chaud sous les combles et elle sent ses vêtements se coller à son corps en nage. Elle rampe le long du tunnel et ouvre la seconde trappe. La lumière du soleil l'aveugle. Elle avance sur le toit où elle trouve des plantes en pot mortes et deux chaises de jardin en plastique. Elle pose ses mains sur ses hanches et apprécie la vue. La cime verte des arbres qui bordent le fleuve, puis la ceinture sombre que forme la Tamise. Derrière elle, un entrelac de rues étroites mène jusqu'à King's Road, une terrasse de pub bondée, un patchwork de jardins et de voitures.
« Qu'est-ce que tu vois ?»
entend-elle Dido lui crier.
« Tout ! Absolument tout !»